Voilà, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire, l'Amérique et vous, sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia avec vous et on va parler de la montée de la tension entre les États-Unis et l'Iran. Téhéran a affirmé avoir abattu un drone américain qui survolait son espace aérien, mais Washington indique que l'appareil était sur une zone internationale. Et ce matin, le président Trump a affirmé avoir annulé une opération de représailles pour éviter la mort de civils. Et pour en parler, nous avons trois invités. Herman Cohen, ancien diplomate, ancien sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines. Michael Sorkin, politologue à la RAND Corporation, un think tank basé à Arlington, dans la région de Washington, D.C. Et Thierry Coville à Paris, il est spécialiste de l'Iran, chercheur à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Messieurs, bonsoir. Alors, on va démarrer avec vous, Herman Cohen. Est-ce qu'on peut commencer déjà par la dernière actualité, hein, qui a d'ailleurs surpris beaucoup de personnes. Le président Trump qui a lui-même annoncé sur Twitter. Allô ? Oui, Herman Cohen, vous êtes en ligne ? Voilà, donc le président Trump qui a lui-même annoncé sur Twitter ce matin avoir renoncé à des frappes de représailles après que les Iraniens ont abattu ce drone hier. Qu'est-ce qui peut expliquer cette retenue du président Trump?
Le président Trump, il y a deux semaines, a demandé des négociations. Il a dit « téléphonez-moi » dans son style. Donc, avec cette décision de ne pas faire une frappe, en réponse à ce que les Iraniens ont fait, il a fait le geste. Et voilà.
D'accord.
De ne pas continuer la guerre, parlons-en.
D'accord. Donc, il ouvre un peu une petite porte pour voir ce qui peut se passer selon vous. Alors, oui, Michael Sorkin. Il est vrai que des démocrates et des républicains semblent apprécier l'attitude de Donald Trump sur cette question. Tout le monde, cependant, n'est pas d'accord. La parlementaire Liz Cheney, qui est la fille de l'ex-vice-président Dick Cheney, y voit un signe de faiblesse pour cette administration. Est-ce que cela pourrait pousser le président Trump à changer d'avis et à adopter une position beaucoup plus dure?
Non, je ne crois pas. Il y a, malgré la rhétorique de l'écosse de Trump, il a donné beaucoup d'indications qui ne s'intéressent pas vraiment à la guerre. Il est beaucoup plus pacifiste que sa rhétorique suggère, vu le critique qu'il a fait de la guerre en Irak. Donc, oui, c'est pas sûr. Et ce qui est compliqué, c'est que parmi les républicains, il y a une forte diversité d'avis. Donc, tout le monde est d'accord qu'il faut durer avec l'Iran, mais personne n'est d'accord à ce que ça veut dire aussi. Chez certains conservateurs, on est très mal à l'aise avec l'idée de cette question de pouvoir constitutionnel. Est-ce que le président a vraiment le pouvoir d'entraîner le pays dans une guerre sans l'accord du Congrès? D'après la Constitution, il ne peut pas, mais on était toujours très flexible dans cette question. Et c'est plutôt... ça va être intéressant de voir jusqu'à où est-ce que les républicains vont soutenir cette idée, cette activité de l'administration.
C'est vrai que depuis...
Ils vont se rallier autour de lui, est-ce qu'ils vont plutôt se pencher sur le constitutionnalisme?
Il est vrai que le président Trump, depuis même la campagne, depuis 2016, a critiqué la guerre en Irak, la qualifiant de très coûteuse. Voilà. Donc, vous pensez que c'est plus un argument lié au coût et éventuellement la durée qu'une telle guerre aurait entraînée?
J'ai l'impression qu'ils s'intéressent plutôt à faire l'impression chez l'électorat qu'il est dur avec l'Iran sans être vraiment dur avec les voteurs. C'est-à-dire il veut avoir la posture de quelqu'un qui est dur. Vu cette rhétorique aussi, il a dit des choses très méchantes vis-à-vis de la politique d'Obama, parce qu'Obama, il a dit qu'il n'était pas suffisamment dur. Oui, il est un dur. C'est-à-dire, il y a cette tendance contradictoire
entre le discours et la réalité.
Voilà.
D'accord. Et donc, restez avec nous. Thierry Coville, l'Iran a d'emblée annoncé avoir abattu le drone américain et promet de défendre son territoire en cas d'attaque. On accuse également Téhéran d'avoir attaqué deux navires dans le détroit d'Ormuz, une accusation qu'elle rejette en tout cas. L'Iran, selon vous, serait-elle poussée à bout par les sanctions américaines?
Oui, alors je dirais pas poussée à bout, mais très clairement, il me semble ce qui se passe actuellement. Si on essaye d'être un peu objectif, c'est le résultat malheureusement logique de la sortie des États-Unis de l'accord sur le nucléaire en mai 2018. Donc, si on analyse un peu ce qui se passe à Téhéran, ils ont adopté ce qu'ils appellent eux-mêmes une posture de patience stratégique. Donc pendant un an, ils n'ont rien fait. Pendant un an, ils ont attendu et ils ont surtout demandé aux Européens de contrer les sanctions américaines qui ont effectivement ont infligé un coup sévère à l'économie iranienne. Et je rappelle, entre parenthèses quand même, que c'est la population iranienne qui souffre beaucoup, avec une inflation qui a atteint au moins 50% fin 2018 selon le FMI, 40 à 50% de la population iranienne qui est en situation d'extrême pauvreté. Une grande partie de la classe moyenne iranienne des pauvres ne mange plus de viande, des pénuries de médicaments. Et donc pendant un an, ils n'ont rien dit, ils ont respecté l'accord. Hein. Et donc je pense qu'on a un changement, ce qui change un peu la donne, c'est qu'on a un changement d'attitude de Téhéran. Cette posture a changé depuis mai 2019, où ils ont commencé à prendre des mesures pour sortir de l'accord. Donc l'idée, c'est de mettre... Je pense qu'ils veulent montrer que ce que font les États-Unis, l'idée, c'est qu'il pourra... Personne... Ils ont eu l'impression qu'ils prenaient tous les coups, si vous voulez. Hein. Je les ai entendus dire qu'on respecte l'accord et on prend tous les coups.
Thierry,
donc,
est-ce
leur
que...
idée, leur idée, c'est juste simplement de dire, c'est que l'idée, c'est que ils considèrent ce que font actuellement les États-Unis contre l'Iran et la passivité européenne. Leur idée, c'est de dire ça aura un coût. Et ils ont commencé à dire aux Européens, si vous ne faites rien, on va continuer à sortir de l'accord.
Et est-ce que c'est la solution pour l'Iran? Les rapports de force ne sont pas forcément en sa faveur, quand même, non?
Oui, mais si vous voulez, actuellement, les Iraniens, ils disent, et qu'est-ce que vous feriez à notre place aux Européens? Donc, et je rappelle quand même qu'ils respectent cet accord validé par une résolution des Nations Unies, cet accord qui est respecté, qui permettait quand même d'avoir des garanties que le programme nucléaire iranien reste pacifique jusqu'en 2025. Donc, ils disent notamment aux Européens, mais qu'est-ce que vous feriez à notre place? Pendant un an, si vous pouvez vérifier les rapports d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, ils ont respecté l'accord, ils le respectent toujours d'ailleurs. En subissant des sanctions économiques, je crois d'ailleurs le président Trump s'est vanté que peu de pays avaient subi autant de sanctions en si peu de temps. Est-ce qui est vrai? Donc ils ont respecté l'accord. Au bout d'un an, il y a le leader en Iran. Ils savent très bien que si vous voulez, ils n'ont pas du tout envie de parler actuellement avec les dirigeants américains. Et il y a l'idée en Iran, c'est que il faut montrer que la politique américaine, elle a un coût. Je crois que Mohammad Javad Zarif l'a dit, il y a un coût à nous faire subir ce qu'ils appellent une guerre économique. Et je crois actuellement aussi, le message est beaucoup adressé aux Européens. Réagissez, parce que progressivement, ils cherchent leur autonomie stratégique, quelque part. Leur autonomie stratégique, je pense qu'ils l'ont trouvée en disant, on va sortir petit à petit de l'accord sur le nucléaire de 2015.
D'accord. Herman Cohen, de quels moyens dispose l'Iran aujourd'hui pour pousser les États-Unis à négocier?
Vous savez, 40% du pétrole du monde passe par l'étroit de Hormuz. Donc, ils viennent d'envoyer un message à président Trump. Vous continuez les sanctions économiques sur nous et nous allons fermer l'étroit de Hormuz, ou au moins nous allons élever le prix de traverser l'étroit de Hormuz. Donc, ça, c'est une chose qui peut gêner beaucoup de pays.
Il y a aussi, disons, son influence dans des pays comme le Liban et même l'Irak.
C'est ça. Ils ont leurs amis comme le Hamas, comme le Hezbollah. Il y a des milices un peu partout, même en Amérique du Sud. Ils peuvent faire du dégât, des terrorisme, etc. Donc, ils ont envoyé un message. Nous aussi, nous avons des moyens de vous faire des problèmes.
Donc, pour vous, il faut que l'administration Trump trouve le moyen de négocier, même si peut-être les sanctions, le président estime que les sanctions sont une bonne chose, mais il faut peut-être ouvrir la voie à des discussions éventuellement, non?
Il y a des solutions gagner-gagner, j'en suis sûr.
Michael Shurkin, le président Trump a-t-il eu raison de sortir des accords sur le nucléaire?
Non, je crois pas. Bon, les accords n'étaient pas parfaits, il y avait beaucoup de problèmes, il y avait des critiques qui sont bien fondées, mais c'est-à-dire que j'ai très mal vu l'idée d'en sortir, même si c'est loin d'être parfait, c'est quoi exactement les alternatives. Et donc j'ai du mal, surtout vu que Obama a pu tisser une coalition internationale très, très utile, très importante, et en quittant les accords, on a mis dans la poubelle cet consensus international qui va être vraiment difficile de refaire. Et sans cette coalition internationale, sans ce soutien international que jouissait Obama, je ne sais pas, ça va vraiment limiter la possibilité que Trump va pouvoir faire imposer un accord plus intéressant.
D'accord.
À mon avis, il fallait mieux accepter les écoles comme un fait accompli.
Et essayer de le parfaire.
Là, oui, voilà, de travailler avec des négociateurs. Donc, ce serait un point de départ et, au lieu de simplement de la mettre dans la poubelle comme ça.
D'accord. Thierry, ce bras de fer entre Téhéran et Washington, si on peut l'appeler ainsi, se déroule sous le regard des Européens qui sont toujours dans l'accord et qui souffrent aussi des sanctions américaines contre l'Iran. Quel rôle l'Europe peut-elle jouer pour décanter la situation?
Oui, ce que j'ai expliqué, c'est que je pense qu'en partie, le changement de stratégie iranien est lié au fait qu'ils sont très mécontents de l'attitude des Européens. Ils reprochent aux Européens de ne subir aucun coup. Hein. Les Iraniens disent aux Européens, écoutez, nous on prend tous les coups et on respecte le droit international, on respecte cet accord et vous ne faites rien. Faites des belles paroles, acceptez de prendre des coups. Et donc effectivement, ce qu'on est en train de voir avec la sortie graduelle de l'accord, je pense que les Iraniens sont très sérieux. Hein. Si ça continue, ils vont sortir petit à petit de l'accord. Et donc ils sont en train de dire, excusez-moi, ils sont en train de dire aux Européens justement, ben, prenez des coups, agissez, arrêtez de nous dire que c'est très bien. Ben, quand les Iraniens ils entendent les Européens leur dire, oui, faites preuve de patience, si vous voulez, ils supportent plus. Ça fait un an qu'ils ont fait preuve de patience. Je pense que pour eux, ils se disent, qu'est-ce que vous auriez fait à notre place? Et moi, honnêtement, je pense que d'autres pays, je ne peux pas les citer, mais d'autres pays à la place des Iraniens, ça fait longtemps que c'est sorti de l'accord. Et donc les Européens, je pense, sont là, il y a quelque part. Un des perdants de la crise, à mon avis, c'est l'Europe, actuellement. Je pense que...
Beaucoup de compagnies sont obligées de...
Excusez-moi.
Je disais que beaucoup de compagnies européennes sont obligées de se retirer de l'Iran.
Alors, ça a déjà été un coût économique. Mais, tu vois, c'est pas énorme, parce que le commerce de l'Union européenne vis-à-vis de l'Iran, c'est 0,5%, je crois, des exportations de l'Union européenne. Mais c'est vrai pour certains secteurs, comme pour des compagnies comme Peugeot, qui avait 30% du marché iranien, comme Total, qui voulait investir 5 milliards d'euros en Iran, pour des compagnies comme ça, effectivement, le coût est assez important. Mais je veux dire, moi, je pense que le coût diplomatique de l'Europe, si on n'arrive pas à véritablement s'imposer et retrouver une certaine crédibilité, notamment vis-à-vis des Iraniens, je pense que le coût diplomatique peut être aussi important.
Tout à fait. Merci beaucoup. Nous avons un auditeur qu'on va prendre, un auditeur du Tchad, Jim Rangar Théodum Osana. Jim Rangar, bonsoir.
Oui, bonsoir VOA et bonsoir à tous vos fidèles auditeurs.
Vous voulez participer ou vous avez une question pour nos invités?
Oui, j'ai un avis à donner.
Allez-y.
Et sinon, selon ce que je vois, le conflit qui persiste entre les États-Unis et l'Iran, je pense que c'est une guerre de position. Chaque pays veut s'imposer, chaque pays veut montrer ses muscles. Et je trouve que cela est trop inquiétant. Et donc, moi, j'interpelle les deux pays à mettre un peu de l'eau dans leur vin. Sinon, il faut éviter que ces conflits puissent grandir. Sinon, j'ai peur qu'on puisse assister à une quatrième guerre mondiale.
Mais
donc,
en tout cas, on l'espère pas.
Je veux que ces deux pays, surtout, mettent le dialogue en avant pour vraiment essayer de trouver une solution à la crise qui sévit entre l'Iran et les États-Unis.
D'accord. Merci beaucoup, Jim Rangar. Alors, Herman Cohen, on voit un peu l'inquiétude de cet auditeur. Mais je voulais vous demander, les États-Unis peuvent-ils attaquer l'Iran sans leurs alliés traditionnels de l'OTAN et de l'Europe? Quel risque stratégique pour Washington d'engager seul une confrontation militaire, même si on sait que les États-Unis disposent des moyens pour le faire?
Je crois que l'Amérique peut attaquer, mais président Trump a raison. Ce sera une mauvaise chose pour lui, pour la politique intérieure des États-Unis. Il risque fortement de perdre l'élection s'il fait la guerre toute seule contre l'Iran sans une très bonne raison. Ce que l'Amérique cherche de la part d'Iran, c'est la fin de la confrontation avec Israël, c'est-à-dire finir avec l'aide à Hezbollah au Liban, qui est en train de confronter Israël militairement. Tous les pays arabes se sont devenus pas amis avec Israël, mais ils ont des relations normales maintenant. Mais seulement il y a Iran qui confronte Israël. C'est ça que Trump voudrait terminer.
Avec les sanctions, beaucoup pensent que l'accord aurait suffi, l'accord sur le nucléaire, parce que les sanctions, peut-être, ce sont plutôt les populations civiles qui souffrent, comme le disait Thierry un peu plus tôt.
Oui, c'est vrai. Les sanctions, mais c'est surtout pour pousser l'Iran à faire la paix avec Israël. C'est le seul pays musulman maintenant qui vraiment
encore très radical,
la guerre contre Iran, c'est le seul pays musulman qui continue la guerre contre Israël.
D'accord. J'ai quelques commentaires sur notre page Facebook. Francis Travolta nous dit que les États-Unis savent que l'Iran a assez d'alliés dans le monde communiste. Je pense qu'il fait allusion à la Russie et à la Chine. Parfait à dépôt nous dit que je crois que l'Iran n'était pas obligé d'abattre ce drone parce que cet acte est une déclaration de guerre contre les États-Unis. Tierno Diallo, lui, nous dit « Bonsoir VOA, Afrique, Donald Trump doit arrêter de provoquer l'Iran. Une guerre entre l'Amérique et l'Iran serait une crise mondiale qui peut causer une guerre mondiale. » Et puis Mboka Naï du Congo, moi, je dis que si les États-Unis bombardent l'Iran, quel serait l'avenir de l'accord nucléaire? Voilà donc des auditeurs qui se posent des questions, globalement assez inquiets de la montée de la tension. Une réaction à cela, Michael Shulkin?
Oui. Je crois que tout le monde est d'accord qu'une guerre entre les États-Unis et l'Iran serait un désastre. Pas une guerre mondiale, mais un vrai désastre. Un désastre pour la région, un désastre pour l'humanité, un désastre économique et politique et diplomatique. Ce serait une bonne chose à éviter, ça c'est clair.
D'accord. Alors Thierry, justement, vous êtes également spécialiste de l'économie pétrolière. Quelles peuvent être les conséquences d'un conflit sur le cours du pétrole et même la sécurité dans la région?
Oui, je vais répondre à vos questions, mais je voulais dire assez rapidement, je pense que si on estime que si les États-Unis veulent négocier avec l'Iran sur toute une série de sujets, comme effectivement les relations avec Israël, etc., il faut bien rendre compte que la sortie de l'accord sur le nucléaire de Donald Trump, du gouvernement américain, et cette imposition de sanctions, en fait, en Iran, a complètement délégitimé la branche modérée qui voulait des relations plus constructives avec les États-Unis, et illustré par Rouhani. Ces gens-là, politiquement, n'existent plus. Et donc actuellement, ce qu'on est en train d'assister en Iran, c'est la montée en puissance des durs qui sont soutenus par une, on va dire, 30-40% de la population et qui depuis le début étaient contre cet accord, qui disaient cet accord est un piège, va être utilisé comme un levier pour nous affaiblir. Je vous garantis que cet accord, c'est dur, malheureusement. Ils ont de plus en plus les pleins pouvoirs en Iran. Donc si vous voulez, je vois une énorme contradiction à dire que les États-Unis veulent négocier sur toute une série de sujets alors qu'ils ont renforcé le camp anti-américain en Iran, et le guide n'est pas forcément le plus radical, mais il fait la synthèse. C'est pour ça qu'actuellement, je pense qu'il va être très très dur, si l'idée est de renégocier sur tous ces sujets-là, moi je ne le vois pas du tout. Pour répondre à votre question, oui, ça a déjà été dit par un des spécialistes, effectivement, s'il y a un conflit, déjà il y a eu un impact sur le cours du pétrole dès qu'il y a eu les attaques sur les pétroliers dans le détroit d'Ormuz, très clairement. D'ailleurs, en plus, très clairement, l'Iran se prépare sans doute à une guerre asymétrique. Leur idée, je crois que ça a été déjà dit, s'il y a un conflit, ce serait également de porter autant que soit possible le trouble dans tous les pays pétroliers de la région. Mais je pense que sur le plan humain, ce serait déjà un désastre. Mais effectivement, s'il y avait un conflit, tout de suite, il y aurait un impact énorme sur le prix du pétrole, c'est assez clair.
Herman Cohen, l'administration aéronautique fédérale ici aux États-Unis a interdit aux compagnies aériennes le survol de l'espace aérien contrôlé par Téhéran. Et finalement, est-ce que ce n'est pas en fait ce que l'Iran recherchait, c'est-à-dire une certaine attention qu'il faut pour pousser à un retour à la table de discussion?
Absolument. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'Iran envoie un message. Vous faites des troubles pour nous et vous faites des sanctions contre nous, nous avons des moyens de faire des difficultés pour vous, pas seulement aux États-Unis, mais tous les pays de la région, et aussi nous pouvons augmenter le prix du pétrole avec des problèmes dans l'étroit de Hormuz. Il y a beaucoup de transport, et c'est la Chine. Presque tout le pétrole de la Chine va passer par l'étroit de Hormuz. Donc, nous allons créer beaucoup de problèmes pour vous, les États-Unis, avec vos relations mondiales. Donc, il faut nous écouter.
D'accord. Alors, Michael Shurkin, le premier ministre japonais était récemment en Iran, justement. Est-ce que ce n'est pas une manière de voir, un peu de sonder, voir où en est Téhéran, pour voir s'il était possible de relancer les discussions? Quelle est votre lecture de cette récente visite assez inhabituelle, si on peut dire ici?
C'est juste, ça rappelle le fait que l'Iran et cette histoire est très importante pour beaucoup de pays, y compris le Japon qui dépend du pétrole qui vient de sa région. Mmh. Alors, mais ceci dit, toute la bienveillance des hommes comme le premier ministre japonais ne compte pas pour grand-chose, parce qu'en fin de compte...
Il est tout de même assez proche du président Trump, non?
Oui et non, oui, c'est vrai. Mmh. Et donc... c'est possible que ça va aider, parce qu'il peut conseiller et suggérer, mais tout ce qu'on sait sur la gestion de l'administration de Trump, pas qu'ils écoutent beaucoup leurs alliés.
D'accord. Herman Cohen, quelle est votre lecture, disons, sur le plan diplomatique, qu'est-ce qui peut être fait?
Oh, je crois que maintenant, l'Union européenne est dans une bonne position de mettre tout le monde autour de la table.
L'Union européenne?
L'Union européenne. J'ai vu le ministre des Affaires étrangères, la dame, qui a visité Washington il y a quelques jours. Je crois que c'est elle qui va être responsable maintenant pour organiser des discussions.
Alors, Thierry Corville. Quelle recommandation? Comment vous, je sais que vous avez estimé que les Européens, je ne sais pas si c'est le terme, mais vous semblez dire que l'opposition n'a pas été très forte. Quelle suggestion devriez-vous faire pour pousser l'Europe à avoir son mot à dire sur ce dossier nucléaire?
Je pense qu'il faut bien comprendre, il faut bien comprendre la réalité. Je pense que la réalité actuellement, c'est que l'Iran ne peut pas parler aux États-Unis dans les conditions actuelles. Je veux dire, ils considèrent déjà, vous l'avez dit, les durs sont un petit peu de plus en plus de pouvoir en Iran. Rahmani a dit très clairement, quand vous avez rappelé la visite du premier ministre japonais, il faut voir aussi la perte de confiance en Iran en ce qui concerne la parole des Américains, parce que le guide a quand même dit, je cite ses propos, c'est on a déjà essayé de négocier avec les Américains en 2015. On a vu ce que ça a donné. Déjà, lui, il n'avait pas confiance. Donc, si vous voulez, je pense que c'est quasiment impossible de discuter avec les Iraniens dans les conditions actuelles.
C'est aussi une question politique intérieure en Iran plutôt. Il y a une question politique intérieure.
Oui, mais comme dans tous les pays. Mais je vois mal actuellement avec la perte de confiance, le rôle des durs et également cette partie de la population qui est quand même très nationaliste, plutôt anti-américaine, qui n'est pas la majorité en Iran, mais qui elle va aller voter. D'ailleurs, vous pouvez attendre les prochaines élections législatives en Iran, c'est plutôt les durs qui vont gagner. Donc dans ce contexte-là, je ne vois pas l'Iran négocier avec les Américains directement. Par contre, mais moi je ne suis pas dans le secret, on peut imaginer, je pense que s'il y a quelque chose du côté des sanctions, hein, si l'Iran peut, ils ont dit aux Européens très clairement, si on arrive à exporter 1,5 million de barils par jour, bon, on va arrêter notre processus de sortie de l'accord. Deuxième élément, je pense que l'Iran a dit depuis le début, nous on veut bien discuter avec les Américains, mais il faut qu'ils reviennent dans l'accord de 2015.
D'accord. Merci beaucoup Thierry Coville, spécialiste de l'Iran, chercheur à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Merci également à Michael Shurkin, politologue à la Rand Corporation, un think tank basé ici à Arlington, dans la région de Washington. Merci également à Herman Cohen, ancien diplomate, ancien sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines. C'est la fin de cette édition de l'Amérique et vous, mise en onde par Michel Joseph, présentation Abdourahman Dia. Dans un instant, une autre édition d'information du monde aujourd'hui avec Morgane Guerriec. Merci d'avoir suivi. Au revoir.